Mes souvenirs, 7. Le lendemain de mon arrivée, il m'accompagna à l'administration de... où je vis le chef d'exploitation, monsieur... dont je ne désignerai pas ici le nom trop connu. Dans la courte entrevue que j'eus avec lui, je sollicitai, comme une faveur, d'être appelé à Paris, ce qu'il me promit. Ses dernières paroles furent celles-ci. « Retournez à B et attendez votre nomination au premier jour. » Je laissai donc Paris le surlendemain, l'ayant à peine entrevu, mais comptant bien le revoir plus amplement. Le temps que je passais à B ne fut pas troublé par aucun incident sérieux. Je sortais chaque jour et toujours seul. Le bruit de mon aventure commençait à s'éteindre. On appréciait mieux la situation, maintenant qu'elle se dessinait au grand jour. Je dois dire d'ailleurs que ceux dont j'étais très connu me témoignaient une plus grande sympathie depuis l'éclat des derniers événements. Pauvre enfant, disait une mère dont la fille avait été mon amie et ma compagne d'études. Je l'aime davantage maintenant, car je puis doublement l'apprécier. Il a dû bien souffrir. Je laisse à penser quelle fut la consternation de mes excellentes maîtresses d'école normale. On ne saurait s'en faire une idée. À ce sujet, le vénérable aumônier m'écrivait une lettre toute paternelle et amicale. Je puis maintenant, mon cher fils, vous dire quelle affection véritable j'ai conservée à mon ancienne fille. Mais ce que vous ne sauriez comprendre, c'est l'étonnement naïf de nos bonnes religieuses, dont vous avez été l'élève favorite en quelque sorte. Sœur Marie des Anges, à la nouvelle que je lui donnais de votre transformation, se couvrit le visage de ses mains en songeant à l'étroite intimité qui vous unissait à elle. « Mon Dieu, s'écria la chaste créature, moi qui l'ai embrassée de si bon cœur lors de son dernier séjour ici, pendant la retraite à laquelle je l'avais conviée, et lui, en me quittant, me baisait les mains sans aucun scrupule. » Mais ses bons cœurs ne m'accusaient pas pour cela, et leur affection, bien que changeant de forme, me fut conservée dans le fond. Celle-là, je le sais, ne me fera pas défaut, car elle s'appuie sur les bases les plus pures, les plus saintes. C'est dire que toutes les suppositions faites sur mes rapports antérieurs avec ces anges terrestres sont fausses, complètement fausses. Sans doute elles étaient permises jusqu'à un certain point, et je ne puis nier que j'ai été terriblement exposée, on le comprend. Mais moi seule connaissais le danger. Si j'ai souffert, si j'ai lutté, personne du moins ne l'a soupçonné. J'ai dû certainement à la solidité des principes de ma jeunesse, à leur extrême pureté, de n'avoir pas à rougir devant ces fronts candides, dont la douce sérénité ne fut pas troublée par moi. J'ai dit ces quelques paroles, non pour me justifier, mais parce que je me reprocherais comme un crime, comme une insigne lâcheté, d'avoir entretenu le soupçon sur des êtres dont l'âme est ce qu'il y a de plus digne des regards de Dieu. Ma correspondance avec Sarah n'avait pas cessé. Elle recevait mes lettres, me répondait régulièrement, mais à l'insu de sa mère. Je n'osais plus écrire à cette dernière. J'avais tort cependant, je l'ai compris plus tard. Mon silence craintif à son égard devait lui sembler, ou une froide indifférence pour elle et sa fille, ou l'explication tardive d'une conduite coupable dans sa maison. Là encore, mon inexpérience m'a perdue. Je n'en puis douter. Si j'avais su diriger la situation, mon avenir était changé. Aujourd'hui, peut-être, je serais son gendre. Mais Dieu ne le voulait pas, sans doute, et j'avais tort d'ambitionner ce titre qui ne sera jamais le mien. Madame P. m'aimait d'une affection sincère, maternelle. Mon départ la blessait doublement, en la menaçant dans ses intérêts les plus chers, la réputation de sa fille, gravement compromise, et la renommée de sa maison. L'une et l'autre furent atteintes, cela devait être. On chuchota tout bas autour d'elle. Le présent expliquait le passé, déjà si équivoque. Les inspecteurs de l'académie ne purent s'empêcher d'attaquer avec elle cette corde si délicate. Ils savaient toutes les péripéties de ce drame dans lequel le rôle que j'avais joué éclatait à tous les yeux. Le lui rappeler, à elle, de quelque façon que ce fût, c'était la faire passer par toutes les tortures de la honte, de la frayeur. C'était mettre en doute l'honorabilité de son caractère d'ombrageuse fierté. En de telles circonstances, la pauvre femme dut maudire bien des fois le jour où elle m'avait donné place à son foyer. Son cœur de mère dut être broyé aux terribles réflexions qui se présentaient à son esprit, aux reproches peut-être que lui faisait sa conscience, si longtemps aveugle parce qu'elle était loyale, et que soupçonner son enfant était au-dessous d'elle. Pourtant, mon Dieu, elle était femme, et à ce titre, elle pouvait connaître les limites des forces humaines. Il y avait un mois que j'avais laissé Paris, lorsque je reçus l'ordre de m'y rendre pour me mettre à la disposition du chef d'exploitation du chemin de fer de... Je partis. Mais avant, j'allais voir une dernière fois mon Seigneur. La pensée que je le laissais pour bien longtemps, sans doute, m'était pénible. Il est si rare de rencontrer de tels hommes unissant toutes les qualités de l'âme aux richesses d'un grand esprit. La situation exceptionnelle dans laquelle sa grandeur m'avait rencontré l'avait touché singulièrement. Il s'était attaché à moi, si je puis le dire. Le bon prélat me prit la main et, me serrant avec effusion contre son cœur, il me bénit. J'étais trop émue. Je ne pus que courber la tête en silence, balbutiant en me retirant quelques paroles de remerciement. Ma pauvre mère avait versé des larmes en se séparant de moi, et malgré tous mes efforts, je l'imitais, je l'avoue. Dans 24 heures, un espace de 200 lieues allait nous séparer. C'était la première fois. Certes, quelques larmes de regret étaient bien permises. Nous avions, il est vrai, l'espérance de nous revoir. Il n'en était pas ainsi de mon noble et vénéré bienfaiteur, Monsieur de Saint-Aime. Au bord de sa tombe, il ne pouvait plus espérer. « Mon pauvre Camille, me dit-il avec des sanglots dans la voix, nous ne nous reverrons plus. » Sa main pressait la mienne, je la sentais trembler. Je ne sais rien de plus déchirant qu'un vieillard en pleurs. Oh, je me sentis défaillir en face de cette douleur qui témoignait de l'affection la plus profonde, la plus vive. En effet, je sentais là battre un cœur de père, je le savais, et comme j'en étais fière. Homme vénérable, repose en paix dans la tombe. La mort a été pour toi le terme d'une existence pleine de bonnes œuvres, de généreux bienfaits dont ta grande âme a reçu la récompense. Puisses-tu entendre ma faible voix? Elle te dira qu'il est ici-bas un cœur tout rempli de ton souvenir. Il n'est plus maintenant. Cette mort a brisé en moi un lien que rien au monde ne saurait remplacer. J'ai été privée d'assister à ses derniers instants. Il les sentit approcher. Une crise vint, crise terrible dans laquelle, cependant, il put prononcer les noms de tout ce qu'il aimait et faire ses adieux à ma mère. Réunissant ses mains à celles de sa fille, il les regarda toutes deux et s'éteignit en prononçant mon nom. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour, mais je le retrouve encore tout entier dans mon cœur. Le culte que je lui ai voué est la dernière, l'unique joie de ma vie. Ah, que depuis, au milieu du dégoût, des amertumes qui m'abreuvent, j'ai pu entrevoir le vide affreux qu'a creusé son absence. Et maintenant, seul, seul pour toujours, abandonné, proscrit au milieu de mes frères. Et que dis-je, ai-je le droit de donner ce nom à ceux qui m'environnent? Non, je ne l'ai pas, je suis seule. De mon arrivée à Paris date une nouvelle phase de ma double et bizarre existence. Élevée pendant 20 ans au milieu de jeunes filles, je fus d'abord et pendant 2 années, au plus, femme de chambre. À 16 ans et demi, j'entrai en qualité d'élève maîtresse à l'école normale de... À 19 ans, j'obtins mon brevet d'institutrice. Quelques mois après, je dirigeais un pensionnat assez renommé dans l'arrondissement de... J'en sortais à 21 ans. C'était au mois d'avril. À la fin de la même année, j'étais à Paris, au chemin de fer. Note. Ici s'arrête la partie vraiment intéressante des souvenirs du jeune B. Il en reprend, bien quelques années plus tard, la suite interrompue. Mais à partir de ce jour, sa triste vie se consume en réflexions amères sur son sort. Il reste 5 années dans les bureaux de la compagnie et se répand en récriminations sur tout et sur tous. Sa correspondance avec Sarah dure encore quelque temps. Mais, peu à peu, à l'expression d'une tendre affection, succède une froide réserve. Et une dernière lettre lui signifie une rupture complète. Il lui semble que quelque chose se déchire au-dedans de lui-même. Son isolement lui apparaît dans toute son horreur, et sa haine du monde et de la vie s'en accroît. Son journal n'est plus qu'une suite de plaintes et de déclamations contradictoires. Fin de la note du docteur Ambroise Tardieu. Va, maudit, poursuis ta tâche. Le monde que tu invoques n'était pas fait pour toi. Tu n'étais pas fait pour lui. Dans ce vaste univers où toutes les douleurs ont place, tu y chercheras en vain un coin pour y abriter la tienne. Elle y fait tâche. Elle renverse toutes les lois de la nature et de l'humanité. Le foyer de la famille t'est fermé. Ta vie même est un scandale dont rougirait la jeune vierge, le timide adolescent. Parmi ces femmes avilies qui m'ont souri, dont les lèvres ont effleuré les miennes, il n'en est pas une, sans doute, qui ne se fût reculée de honte sous l'étreinte de mes embrassements, comme au toucher d'un reptile. Eh bien, moi, je ne maudirai personne. Oui, j'ai passé au milieu de vous sans y laisser l'ombre d'un souffle. Homme, je n'ai pas souillé mes lèvres de vos parjures et de mon corps de hideux accouplements. Je n'ai pas vu mon nom traîné dans la boue par une épouse infidèle. Toutes ces plaies infectes que vous étalez au grand jour m'ont été épargnées. De cette coupe dorée, je n'en ai aspiré que le parfum. Vous en avez bu jusqu'à la lie toutes les hontes, tous les déshonneurs, sans être encore satisfait. Gardez donc votre pitié. Elle vous appartient plus qu'à moi, peut-être. Je plane au-dessus de toutes vos misères sans nombre, participant de la nature des anges. Car, vous l'avez dit, ma place n'est pas dans votre étroite sphère. À vous la terre, à moi l'espace sans bornes. Enchaînés ici-bas par les 1000 liens de vos sens grossiers, matériels, vos esprits ne plongent pas dans cet océan limpide de l'infini où s'abreuve mon âme égarée pour un jour sur vos plages arides. Dégagée par avance de son enveloppe vierge, elle a entrevu avec béatitude la lumineuse clarté d'un monde immortel, resplendissant, sa demeure future et désirée. Oh, qui pourrait dire les élans de pure ivresse d'une âme que rien de terrestre n'attache à l'humanité? Et de quel œil elle contemple cet horizon fermé, où s'agitent tant de passions, tant de haineuses colères, tant de matérialité? Et c'est à moi que vous jetterez votre insultant dédain, comme à un déshérité, à un être sans nom. En avez-vous bien le droit? Comment se serez-vous, homme dégradé, mille fois avili et à jamais inutile, joué méprisables et méprisés de créatures corrompues, dont vous vous parez comme d'une conquête? Ce serez-vous, dis-je, qui viendriez me jeter à la face le sarcasme et l'outrage? Ah, ah oui, soyez fiers de vos droits. La fange qui vous couvre témoigne assez du noble usage que vous en avez fait. C'est moi qui pourrais vous plaindre, pauvres esprits déchus, qui avez épuisé en de misérables satisfactions toutes les sources vives de votre cœur, qui avez éteint jusqu'au dernier rayon de votre intelligence ce pur flambeau destiné à guider votre raison dans les sentiers de la vie. Oui, je vous plains, car vous n'avez pas souffert. Pour souffrir, il vous a manqué un cœur noble, grand, une âme généreuse. Mais l'heure de l'expiation viendra, si déjà elle n'est venue. Et alors, vous serez effrayé du vide affreux de tout votre être. Malheureux, vous ne trouverez rien pour le remplir. Vous en arrivez au seuil de l'éternité, à regretter quoi? La vie? En face de l'immortalité, vous regretterez la poussière, le néant? Je vous le dis, moi que vous avez foulé aux pieds, je vous domine de toute la hauteur de ma nature immatérielle, virginale, de mes longues souffrances. Je dis mes longues souffrances, et je dis vrai, car moi aussi j'ai rêvé ces nuits délirantes, ces brûlantes passions qui ne devaient m'être révélées que par intuition. J'ai eu des tressaillements de tigre en voyant le soir sous le feu des lustres passer ces femmes, belles de leur parure plutôt que de leurs attraits flétris dès longtemps. Assis tristement au parterre d'un théâtre et parcourant d'un œil morne toute l'enceinte circulaire, j'analysais secrètement toutes les joies renfermées dans ces paroles dissimulées sous l'éventail, dans ces sourires promettant le bonheur dans une pression de main. Ah, ne le croyez pas, je ne subissais pas, sans être jaloux, le choc de tous ces courants électriques se croisant en tous sens. Non, j'étais jeune, j'enviais aussi ma place à ce banquet de l'amour, et je ne devais être à personne qu'à Dieu. Avant d'en arriver à ce détachement absolu d'une âme vaincue par la lutte même, oh, croyez-le, j'ai cruellement souffert. Au milieu de mes maux, je nourrissais une illusion folle, coupable sans doute. Mais qui donc oserait me la reprocher? Une jeune fille m'avait aimé, comme on aime pour la première fois. Elle le croyait, du moins. Sa candide ignorance n'avait rien rêvé au-delà des joies incomplètes que je lui ai révélées. Plus tard, son oubli m'écrasa. Il me ramena aussi à la vérité de la situation que j'avais oubliée un instant. Ce fut alors que ce dernier, cet unique bonheur m'étant ravi, je compris bien l'étendue de mes devoirs et le douloureux sacrifice qu'il m'imposait. Je rompis instantanément, généreusement, avec tous les souvenirs de mon passé. Je m'ensevelis vivant, jeune, dans cette solitude éternelle que je trouve partout, au milieu des agitations de la foule, comme dans la retraite la plus ignorée. Ma raison égarée me fut rendue. Avec elle, je retrouvai bientôt l'oubli, sinon la paix, le bonheur. Hélas, il n'a jamais lui pour moi. Bien des jours ont passé depuis. La consommation a été entière. Ce n'est plus que par la pensée que je m'entretiens encore avec cette ombre chère d'un amour éteint. Je me reporte parfois à ces jours si vite envolés de sainte tendresse, d'illusions chastes, où je nomme, parmi des jeunes filles, mes sœurs, mes compagnes, cette douce et intime confraternité suffisait à ma vie, que pas un souffle n'avait ternie. De pareils souvenirs n'ont rien d'amer, ils consolent de bien des déceptions. C'est l'oasis embaumée où se réfugie mon âme blessée par d'orageuses luttes. Aujourd'hui, j'envisage avec calme la sombre perspective de mon implacable destinée. Profondément dégoûté de tout et de tous, j'endure, sans en être ému, les injustices des hommes, leurs haines hypocrites. Elles ne sauraient m'atteindre dans le surretranchement où je m'enferme. Il y a, entre eux et moi, un abîme, une barrière infranchissable. Je les défie tous. 30 mai 1860. Note, il a quitté la place du chemin de fer. Fin de la note du docteur Ambroise Tardieu. Seigneur, Seigneur, le calice de mes douleurs n'est-il donc pas encore vide? Votre main adorable ne doit-elle donc s'étendre sur moi que pour frapper, pour briser ce cœur si profondément ulcéré, qu'il ne s'y trouve plus de place ni pour la joie, ni pour la haine? Mon isolement peut-il être plus complet, mon abandon plus poignant? Ô pitié, mon Dieu, pitié, car je succombe à cette lente et épouvantable agonie, car mes forces m'abandonnent, car la goutte d'eau s'est faite océan. Elle a envahi toutes les puissances de mon être. Elle a creusé sous mes pas un abîme toujours plus vaste, plus profond, dans lequel je ne puis plonger le regard sans en éprouver un horrible vertige. Il me semble par moments que ce sol miné va s'affaisser sous mes pieds et m'engloutir pour jamais. Cette lutte incessante de la nature contre la raison m'épuise chaque jour davantage et m'entraîne à grands pas vers la tombe. Ce ne sont plus des années qui me restent, ce sont des mois, des jours peut-être. Je le sens d'une manière évidente, terrible, et combien cette pensée est douce, consolante pour mon âme. Là est le trépas, l'oubli. Là, sans nul doute, le malheureux exilé du monde trouvera enfin une patrie, des frères, des amis. Là, il y aura une place pour le proscrit. Ce jour arrivé, quelques médecins feront un peu de bruit autour de ma dépouille. Ils viendront en briser tous les ressorts éteints, y puiser de nouvelles lumières, analyser toutes les mystérieuses souffrances amassées sur un seul être. Ô princes de la science, chimistes éclairés, dont les noms retentissent dans le monde, analysez donc, s'il est possible, toutes les douleurs qui ont brûlé, dévoré ce cœur jusque dans ses dernières fibres. Toutes ces larmes brûlantes qui l'ont noyé, desséchées sous leurs sauvages étreintes. Sachez combien de pulsations lui ont imprimé les mépris sanglants, les injures, les railleries infâmes, les amers sarcasmes, et vous aurez trouvé le secret que garde impitoyablement la pierre du tombeau. Alors on donnera une pensée au malheureux, que pendant sa vie on a indignement repoussé, rougissant parfois de lui accorder un serrement de main, à qui même l'on a refusé du pain, et jusqu'au droit de vivre. Car j'en suis là, la réalité m'accable, elle me poursuit. Que vais-je devenir? Je l'ignore. Où trouver pour demain le morceau de pain que donne le travail? Me faudra-t-il donc le demander à l'aumône, au crime? Revenu dans ce Paris que j'aime parce que j'y suis oublié, me faudra-t-il épier le soir le passage d'un homme heureux qui me fera la grâce d'une insulte en me montrant du doigt à un agent de sûreté? À quelle porte n'ai-je donc pas frappé pourtant? Admis près de quelque personnage dont j'étais connu, j'ai prié, j'ai supplié pour que l'on me vînt en aide. Certes, cela leur était facile, Leur influence à Paris pouvait d'un mot me donner un moyen de gagner honorablement ma vie. Oh, je dois le dire, partout je reçus de chaleureuses protestations de dévouement, sur lesquelles je fus assez stupide pour compter. Un signe folie dont je fus bien vite revenu. Je compris enfin que désormais je devais compter sur moi seul. Mes faibles ressources étaient épuisées. J'allais bientôt avoir à connaître les angoisses de la misère, les tortures de la faim. Car un mois s'était passé ainsi à prier, à attendre le résultat toujours négatif d'une démarche. Un dernier parti me restait. Je l'adoptai, croyant cette fois ayant trouvé le salut. J'allais résolument me faire inscrire comme valet de chambre dans l'un de ces nombreux refuges dont Paris fourmille, dans un bureau de placement pour les domestiques. Avez-vous servi ? Telle fut la demande qu'on me fit tout d'abord. Et sur ma réponse négative, vous trouverez difficilement, mais enfin, revenez, nous verrons. Hélas, j'y revins tous les jours, et tous les jours aussi, j'entendis l'accablante réponse. Je n'ignore pas que je suis un sujet de singulier étonnement pour tous ceux qui m'environnent. Tous ces jeunes visages qui respirent la joie de leur âge semblent lire sur le mien quelque effrayante vérité dont le secret leur échappe. La froide fixité de mon regard semble les glacer et les force presque au respect. Comment définir cette impression étrange qu'inspire ma présence ? Je ne le saurais, mais pour moi elle est visible, incontestable. Eux-mêmes la subissent, ils ne l'expliquent pas. Ces gais enfants de la rive gauche, des futurs maîtres de la science, qui préparent leur succès entre un baiser et une demi-tasse, avec lesquels je suis en contact journalier, au restaurant seulement, ne s'expliquent guère non plus l'espèce de morne sauvagerie de mes habitudes, qui n'est pas explicable en effet à 28 ans. Si je souris quelquefois à mes gentilles voisines de table, nulle d'entre elles du moins ne saurait dire quel est le minois qui partage mon réduit. Et c'est là un renseignement qu'elles peuvent donner avec certitude sur tel ou tel étudiant du quartier, car elles se connaissent toutes si elles ne s'aiment pas toujours. Elles sont parfaitement au courant des changements qui se succèdent dans leur ménage réciproque et des échanges qui s'opèrent entre leurs chevaliers de la veille et ceux du lendemain. Il y a vraiment une curieuse étude à faire sur ces mœurs locales. Sans être mêlée à aucune intrigue, sans être acteur dans la comédie, j'assiste souvent à d'étranges scènes entre ces amoureux couples. Simple spectateur, j'observe consciencieusement et j'en arrive presque toujours à me dire que mon rôle est le meilleur. Du haut de ma fière indépendance, je m'établis juge. L'expérience réelle que j'ai acquise du cœur de la femme me place bien au-dessus de certains critiques célèbres dont les appréciations, je dois le dire, m'ont plus d'une fois frappée par leur fausseté. Dumas fils, entre autres, avait nement tenté de déchirer ce voile qui ne s'est écarté qu'à demi, impénétrable qu'il est à l'œil des profanes. « Tu n'iras pas plus loin, » lui fut-il répondu. Il a été arrêté, en effet, dans son prodigieux élan. Pourquoi ? Il lui manquait le mot de passe pour pénétrer dans le sanctuaire. Il s'est égaré dans un labyrinthe sans issue, dont il est sorti épuisé, vaincu, mais non pas initié à cette science qu'il prétend connaître, que jamais homme ne possédera. Doit-on déplorer qu'il en soit ainsi ? Non, oh non. Je dis pour ma part, et j'en suis moralement convaincu, il y a là non pas seulement une impossibilité, mais une nécessité indispensable, une limite qu'il serait dangereuse à l'homme de franchir. Ses facultés s'y opposent, son bonheur en dépend. Par une exception dont je ne me glorifie pas, il m'a été donné, avec le titre d'homme, la connaissance intime, profonde, de toutes les aptitudes, de tous les secrets du caractère de la femme. Je lis dans ce cœur, à livre ouvert. Je pourrais en compter toutes les pulsations. J'ai, en un mot, le secret de sa force et la mesure de sa faiblesse. Aussi est-ce pour cela que je ferais un détestable mari. Aussi, je le sens, toutes mes joies seraient empoisonnées dans le mariage et j'abuserais cruellement, peut-être, de l'immense avantage qui serait le mien, avantage qui tournerait contre moi. Après bien des démarches, on se décida, au bureau de placement, à me donner une lettre d'introduction chez une dame, en quête d'un valet de chambre. Madame la comtesse de J habitait un petit hôtel du faubourg Saint-Honoré. Je la trouvai seule dans un vaste salon où elle écrivait. Elle prit ma lettre, vint s'asseoir auprès de son feu et me fit plusieurs questions, auxquelles je m'attendais du reste. Je n'avais pas servi, tel était toujours l'obstacle insurmontable. J'aurais bien pu lui dire « j'ai été femme de chambre », mais le moyen de répondre par une semblable énormité. Cependant, on eût passé sur ce point capital. « Ici, me dit la dame avec un peu de bonne volonté, vous pourriez apprendre le service en peu de temps, mais vous me paraissez faible, délicat, et nullement fait pour un travail de cette sorte. Je ne puis donc vous prendre chez moi. » On me congédia. Malheureusement, elle disait vrai. Je suis faible et d'apparence maladive. Avec cela, on ne trouve guère à se loger qu'à l'hôpital. Ce sera là, sans doute, ma dernière étape. J'allais de temps à autre rendre visite à une élégante jeune femme dont le mari dirige un brillant café du Palais Royal. Mes relations avec elle étaient des plus amicales. Elle connaissait un peu ma famille et les principaux événements de ma vie avaient excité au plus haut point sa curiosité féminine. Aussi, avec l'habileté de son sexe, trouvait-elle souvent le moyen d'amener la conversation sur ce terrain, attendant toujours quelques mystérieuses confidences, dont je fus toujours peu prodigue, même à son égard. Les impressions de ma vie ne sont pas de celles qu'on puisse jeter à tous les vents. Il y a là des situations que peu de personnes peuvent apprécier. Et, certainement, pour quelques gens grossiers de notre époque, il y aurait matière à plus d'une sotte interprétation des faits et des choses, interprétation qui ne serait pas toujours sans danger pour moi, comme j'ai été à même d'en juger parfois. J'en puis citer un exemple. C'était au chemin de fer de... Un sous-chef de bureau s'entretenait avec moi de l'originalité de mon passé. Il croyait tout bonnement que, recherché un jour par un jeune homme, je m'étais rendu à ses désirs et que là s'était faite la découverte de mon véritable sexe. On voit jusqu'où peut s'étendre cette faculté de me juger et quelles sérieuses conséquences elle peut avoir pour moi, pour mon repos. Admis à titre provisoire dans une administration financière, où je passais quelques mois dans une tranquillité exempte du plus léger nuage, je pouvais espérer mon admission définitive. Il n'en fut pas ainsi. Des changements survinrent dans la société qui lui imposaient l'obligation de réduire son personnel. On me remercia, me faisant entrevoir, il est vrai, la possibilité d'être réintégré plus tard dans mon poste, mais ce ne pouvait être une certitude. Me voilà donc de nouveau à la recherche d'un gagne-pain. Mes ressources pouvaient me permettre d'attendre un mois. Dans ces conditions, je pouvais me croire riche. Il me faut si peu. Ce que je mange dans une journée suffirait à peine au déjeuner d'un homme de mon âge, pourvu d'un bon estomac. Quant à l'inquiétude, je puis bien affirmer que je n'en avais pas. Je considère chaque jour qui m'est donné comme devant être le dernier de ma vie, et cela tout naturellement, sans le moindre effroi. Pour comprendre une telle indifférence à 29 ans, il faudrait, comme moi, s'être vu condamné au plus amer de tous les supplices, à l'isolement perpétuel. L'idée de la mort, généralement si repoussante, est pour mon âme endolorie d'une douceur ineffable. La vue d'un tombeau me réconcilie avec la vie. J'y éprouve je ne sais quoi de tendre pour celui dont les ossements sont là, à mes pieds. Cet homme, qui fut étranger pour moi, devient un frère. Je converse avec cette âme délivrée de ses chaînes terrestres. Captif, j'appelle de tous mes vœux l'instant où il me sera donné de la rejoindre. L'émotion me gagne à tel point que je sens mon cœur dilaté par la joie, l'espérance. Je pleurerai, mais de bien douces larmes. Ce que je décris ici, je l'ai éprouvé bien souvent, car ma promenade favorite à Paris, c'est le Père-Lachaise, le cimetière Montmartre. Le culte des morts est né avec moi. Le provisoire, malheureusement, menaçait de durer trop longtemps. Mes finances s'épuisaient de façon à me suggérer de tristes réflexions. Même avec la perspective d'un nouveau rappel, cette situation ne pouvait guère durer, car j'en étais arrivé à me demander comment le lendemain je pourrais déjeuner. Vous qui me lisez, puissiez-vous ne jamais savoir tout ce qu'il y a d'horrible dans cette parole. Une pareille situation, en se prolongeant, peut amener le malheureux qu'elle accable aux plus affreuses extrémités. De ce jour, enfin, j'en arrivais à comprendre le suicide, à l'excuser. Ceci n'a pas besoin de commentaires. Que de fois, tristement assis sur un banc des Tuileries, je me laissais aller peu à peu sur cette pente terriblement rapide d'où l'on ne revient, hélas, qu'épouvanté, abattu, moralement défait. Oh, combien à cette heure j'enviais le sommeil de la tombe, ce dernier refuge de l'humaine nature. Pourquoi donc, Seigneur, avoir prolongé jusqu'à ce jour une existence inutile à tous et si écrasante pour moi? C'est là un des mystères qu'il n'appartient pas à l'homme de sonder. À charge aux autres et à moi-même, sans nulle affection, sans aucune de ces perspectives qui, du moins, viennent illuminer parfois d'un rayon doux et pur le front soucieux de celui qui souffre. Mais non, rien. Toujours l'abandon, la solitude, le mépris outrageant. Peu de jours auparavant, poussé à bout, j'avais dû recourir à ma pauvre et bonne mère. Comprend-on bien tout ce qu'il y a de pénible dans cette démarche d'un fils qui sait de quelle privation ce secours va être la source? Ainsi, non seulement je me voyais impuissant à rendre plus heureux les derniers jours de celle à qui je devais tant, mais encore il me fallait diminuer ses ressources, déjà si insuffisantes. Je puis bien affirmer que cette extrémité est la plus dure à laquelle je puisse être condamnée. Je vais parler ici d'une résolution fatale que m'inspira le découragement profond de ces derniers jours. Je rencontrai un matin, devant les Tuileries, un homme que je croyais encore au fond de la Bretagne, où je l'avais connu quelques années auparavant, agent d'une importante compagnie maritime. Je le laissai parler sans lui parler, car lui ne m'avait pas reconnu. Plus tard, en réfléchissant à l'étrangeté de cette rencontre, je crus y voir une assurance de bonheur pour un nouvel avenir. Le bon souvenir que j'avais gardé de ces relations m'était une garantie de sa bonne volonté pour la circonstance actuelle. Dès le surlendemain, j'allais lui faire une visite à l'administration centrale de la compagnie et je ne lui cachai rien des difficultés de ma situation. Il s'y intéressa, je dois l'avouer. Son accueil fut même plus affectueux que je ne l'avais espéré. Je lui demandai tout simplement de me faire embarquer à bord d'un paquebot comme garçon de salle. Ma proposition l'étonna fort. Il eût voulu faire mieux pour moi. D'un autre côté, il me signalait des impossibilités matérielles à l'exécution de mon projet. D'abord, la compagnie ne voulait admettre en cette qualité que des gens ayant déjà l'habitude de la navigation. Ensuite, me disait-il, je ne puis pas croire que vous, avec le genre de vie que vous avez mené, soyez propre à faire un pareil service. Si vous le voulez absolument, je suis tout disposé à vous y aider. Peut-être même me sera-t-il possible d'adoucir votre situation à bord, en vous recommandant à l'un de mes amis, commissaire de l'Europe. J'acceptai sans hésitation. Eh bien, me dit-il, je verrai le directeur. Mais il serait bon que vous me donnassiez pour lui une recommandation, d'un député, par exemple. Je revins le lendemain avec une lettre que j'obtins sans peine d'un député de mon département, M. de V. Au point où en étaient les choses, il n'y avait plus à reculer. Je le sentais bien. Je m'étais engagé si vite pour n'avoir plus à retourner en arrière. Toutes ces démarches étaient faites que je n'avais encore consulté personne, ni ma mère, ni mes amis, ne voulant les prévenir qu'au moment de mon départ. On m'en eût certainement détourné si l'on avait su à quel titre je partais. On ne l'a jamais su. Je devais avoir une réponse assez prompte, l'Europe venant d'arriver au Havre. Sur ces entrefaites, je reçois l'avis de me rendre le jour même à la compagnie de... pour y reprendre mon poste. Cette lettre, qui aurait dû me réjouir, me consterna. Je me trouvais dans un étrange embarras. Que faire? C'était bien simple, et je n'avais pas de voies à prendre. Consulter mon excellent protecteur, lui avouer franchement tout ce que j'avais fait et suivre son avis. Je ne le fis pas. Chez moi, malheureusement, le premier mouvement est rarement le bon. La précipitation ne me conduit à rien de bien. Cette circonstance en est une nouvelle preuve. Je me décidai à garder le silence et à laisser marcher les événements. Comme mon départ pour les États-Unis pouvait n'avoir lieu que dans un mois, rien ne m'empêchait de reprendre provisoirement le poste qui m'était offert. C'est ce que je fis en effet. Le motif qui avait décidé de mon rappel était de nature à me faire espérer que ce serait pour un assez long temps. On me le donna bientôt à entendre. Je rejetai loin de moi cette perspective pour m'attacher davantage au projet imprudent dont j'attendais la réalisation. Un mois se passa de la sorte. À mesure que la solution approchait, j'éprouvais de secrètes angoisses. J'étais si heureux dans le présent. Pourquoi aller me jeter dans un avenir au moins incertain? Uniquement parce que je me croyais engagé. Belle raison, quand il s'agit d'intérêts sérieux. À cette crainte s'ajoutait l'ennui d'avoir à abandonner des gens jusque-là si bons pour moi. Cette idée m'était poignante, douloureuse. D'un mot, je pouvais encore faire cesser ces cruelles agitations en renonçant résolument à ce que je croyais sottement de mon devoir de ne pas refuser. Il y avait dans cette maudite obstination une question d'amour-propre, assurément bien mal placée. Je ne voulais pas faiblir devant une détermination prise énergiquement d'abord, il est vrai, mais sous l'empire du découragement. Le sort en était jeté. Je le subis. Le commissaire de l'Europe répondit à son ami qu'il me prenait à son bord, mais simplement comme garçon de salle, les règlements s'opposant à ce que je fusse employé, même par intervalle, aux écritures du bord. Cette lettre était froide, significative et me replongeait dans l'indécision. Monsieur M. lui-même ne me pressait pas d'accepter. Il était attristé, me disait-il, de me voir partir à ces conditions, tout en me flattant de l'espoir que ma position pût s'améliorer dans la suite et qu'il m'y aiderait de tout son pouvoir. Je me fortifiai entièrement contre ce que je taxais de faiblesse et, le cœur serré comme par un pressentiment, je prononçai en tremblant ma dernière parole d'adhésion. C'était le jeudi, mon départ fut décidé pour le lundi suivant. J'écrivis immédiatement à ma mère pour le lui annoncer, me gardant bien toutefois de lui faire connaître quelle fonction j'allais désormais remplir. Elle ne s'en fut pas consolée. L'idée de ce voyage lui était déjà trop pénible pour que j'allasse en aggraver la tristesse par un pareil aveu. On comprend que vis-à-vis de mes protecteurs, je gardais la même réserve. Il était trop tard pour me conseiller ou pour m'adresser des reproches. On me laissa faire, croyant que j'avais été sollicité par l'appât d'une position avantageuse. Je leur laissai cette conviction qui, jusqu'à un certain point, pouvait excuser ma conduite. Quel étrange aveuglement me fit soutenir jusqu'au bout ce rôle absurde. Je ne saurais me l'expliquer. Peut-être cette soif de l'inconnu, si naturelle à l'homme. Ce sont là les dernières lignes du manuscrit. Elles ont précédé de bien peu l'acte de désespoir par lequel celui qui les a tracées mit fin à ses résolutions en même temps qu'à sa triste existence. Il avait vécu un peu moins de 30 ans.